Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Simon Dutin, Stephen Brun. Merci infiniment de votre fidélité. Si vous voulez aller réécouter cette émission ou l'écouter tout simplement de 9h à 11h, les deux premières heures, n'hésitez pas à aller nous télécharger en podcast. On est très heureux d'être avec vous comme tous les samedis et dimanches matin de 9h à midi. Dans quelques instants, le bras de fer autour de Caroline Garcia qui a remporté le Master cette semaine est-elle entrée dans l'histoire du tennis français? Ce sera un 2 contre 2. Une team histoire, une team pas encore pour Caroline Garcia. Et puis 11h30, une fois n'est pas coutume, sachez que, non pas que Christophe Cessieux ne soit pas là le dimanche, ça arrive souvent, mais Christophe Cessieux va nous gratifier de sa magnifique séquence nostalgique. Christophe Cessieux, c'était mieux avant. Aujourd'hui, il y a 32 ans, Florence Artaud remportait la Route du Rhum. Nous sommes évidemment en pleine Route du Rhum. Les skippers se sont élancés mercredi. Ce magnifique moment, ce sera donc à 11h30 avec Christophe Cessieux. Les artistes entrent dans l'arène. C'est la deuxième Française de l'histoire à inscrire son nom au palmarès du Masters après Amélie Mauresmo. Cette semaine, Caroline Garcia a remporté la compétition qui réunit le gratin, du gratin du tennis féminin, les 8 meilleures joueuses du monde. Et pour elle, c'est énorme.
Et c'est le plus gros titre de ma carrière et ça représente beaucoup pour moi. J'étais très déçue après ma demi-finale à l'US Open où j'avais l'impression d'être passée un peu à côté après avoir fait un super tournoi. Et aujourd'hui, je pense que cette expérience m'a servi. Évidemment, c'est le Masters et ça, c'est un énorme tournoi dans le calendrier de la WTA et ça représente beaucoup pour moi de gagner ce tournoi. Cette saison a été super positive. C'est mon 4e titre de l'année et à chaque fois, je suis vraiment allée le chercher. Je suis montée en puissance dans le tournoi et je suis vraiment super fière du résultat d'aujourd'hui et de ma 4e place mondiale.
Le plus gros titre de sa carrière, la Française, vient-elle de marquer l'histoire du tennis français? Dans le coin gauche, la team histoire. Oui, c'est sûr, ça ne fait pas un pli. Marion Bartoli, Stephen Brun. Dans le coin droit, la team pas encore dans l'histoire. Christophe Cessieux, Simon Dutin. C'est le bras de fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Depuis ce matin, vous pouvez voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Vous êtes des milliers à avoir engagé ce bras de fer. Oui, elle est dans l'histoire du tennis français. Oui, à 70%, rendez-vous compte. Non. À 30%. Christophe Cessieux.
71%.
71-29. Vous allez devoir batailler pour essayer de.
Peine perdue.
Oh, je ne sais pas.
Non.
Ne pars pas à perdre tout de suite.
Tu retourneras peut-être un point. Mais si on prend un point, on a gagné.
Ben voilà, c'est déjà pas mal, non? On est d'accord?
Comme Nice hier, vous avez pris un point, vous avez gagné.
C'est de coutume. Dans ces cas-là, ceux qui sont derrière commencent. La team pas encore, c'est à vous. Christophe Cessieux, Simon Dutin. Christophe Cessieux, pourquoi pas encore?
Alors, moi,
dans l'histoire.
Le résultat est magnifique. Franchement, chapeau Caro. Je suis ravi pour elle. Mais je suis désolé de le dire. C'est pas encore avec ce seul résultat qu'elle entre dans la grande histoire du tennis français. Je sais bien que depuis des décennies maintenant, on cherche, on est à la recherche de champions et de championnes capables de nous redonner des lettres de noblesse au tennis français, de nous permettre de jouer dans la cour des grands. Caro s'en approche à grands pas de cette cour des grands, mais je suis désolé, elle n'y est pas encore. Marion en fait partie, Noah en fait partie, Pierce, Mauresmo, les mousquetaires et tous les autres, mais Garcia pas encore. Marion, franchement, je te pose une question. Est-ce que tu considères aujourd'hui Caroline Garcia comme ton égale après avoir remporté ce Masters? Si tu me dis oui,
tu peux pas me demander ça comme question.
Réponds à la question, Marion. Si tu me dis oui, je me range à ton avis et j'arrête tous mes arguments.
Bah, dis oui, comme ça on passe à autre chose.
Non, mais franchement, oui, allez, je dis oui. Je dis oui.
Alors tu dis oui. Donc tu considères que Wimbledon, c'est le même niveau qu'un tournoi qui se déroule au pays du rodéo à Fort Worth.
Mais
c'est ça.
Tu te rends compte que c'est quand même plus compliqué sportivement à gagner un Masters.
Non, pas d'accord. Pas d'accord. Un Masters, un tournoi du Grand Chelem, c'est sur 15 jours. C'est une compétition qui, il y a combien de jours?
Non, mais là où je suis d'accord avec toi, Christophe, c'est qu'en fait, le Masters te donne le droit à l'erreur. C'est-à-dire que t'as le droit de perdre un match. Ben d'ailleurs, oui, c'est ce que Caro a fait. Elle a perdu un match dans les poules. Et c'est ce qu'Amélie avait fait effectivement aussi en 2005. Elle a perdu un match dans les poules et tu peux gagner quand même le tournoi. Donc ça, là-dessus, je te l'accorde totalement. Effectivement, c'est plus dur de gagner un Grand Chelem que de gagner un Masters parce qu'un Masters, t'as le droit à l'erreur. En Grand Chelem, tu perds un match, t'es éliminé. Donc ça, là-dessus, je te l'accorde. Mais en revanche, le Masters fait totalement partie juste derrière les tournois du Grand Chelem, juste le grand tournoi du monde.
C'est juste
mais oui, mais parce que mais
quoi,
on a tellement pas pour oui, mais d'accord, mais pour moi ça fait partie de l'histoire. Tu remportes un Masters comme tu remportes une Fed Cup, comme tu remportes une Coupe Davis, ça fait partie de l'histoire, c'est partie des plus grands tournois. Qu'un Master 1000, tu me dises non, c'est pas aussi grand et ça fait pas partie de l'histoire parce qu'entre guillemets, il y en a beaucoup, etc. Oui, mais le Masters, il y en a qu'un par an. Il n'y en a qu'un pas. Je ne vais pas faire le débat maintenant. On continue ton argument, mais voilà.
Le débat est parti. Tu as raison, raison de poser des arguments. Mais Simon Dutin voulait te répondre.
Quand Amélie Mauresmo, elle n'est pas dans l'histoire du tennis français parce qu'elle a remporté le Masters. Oui, c'était en 2005.
Et l'Open d'Australie.
Vous vous souvenez qui elle bat en finale, Mauresmo, du Masters en 2005?
Marie Pierce.
Voilà, bah, toi tu le sais, mais bon, sinon personne ne s'en souvient. Alors depuis qu'Amélie Mauresmo a remporté le Masters en 2005, je vais vous citer le nom des vainqueurs du Masters. Vous allez me dire qu'il n'y a pas, à part juste Justine Hénin, Kim Clijsters et les sœurs Williams. Il n'y en a aucune qui est dans l'histoire du tennis. Kvitova, elle n'y est pas. Radvanska, elle n'y est pas. Siboulkova, elle n'y est pas. Wozniacki, elle n'y est pas. Svitolina, elle n'y est pas. Ashley Barty, il y a quelques puristes qui vont me dire oui, bon, peut-être. Muguruza, elle n'y est pas. Garcia, elle n'y est pas encore. Elle sera dans l'histoire du tennis français lorsqu'elle aura fait, lorsqu'elle aura dépassé, au moins, mais je ne sais pas, au moins, enflammé un.
Attends. Elles ne sont pas dans l'histoire du tennis de leur pays.
Oui, bah écoute.
Mais enfin,
à mon avis, Radvanska, elle n'est pas au niveau de Świątek. Par exemple,
pays de tennis. On a des grands champions dans l'histoire du tennis français.
Mais qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent?
Caroline Garcia, on attend. On est tellement en recherche, en attente d'avoir un champion qui nous fasse frissonner, qu'on met tout le monde dans la grande histoire.
On est au début. Pour l'instant, elle a tout ce qu'il faut pour y rentrer. Et effectivement, elle commence de la meilleure des façons, mais elle confirme enfin le potentiel qu'on lui prêtait. On attend désormais qu'elle enflamme un Roland pendant 15 jours, qu'elle aille en demi, qu'elle perde en 3-7, au moins en demi, au de la finale.
Ouais, c'était cet été,
au dernier.
Steve, j'ai fait demi de Roland, personne s'en souvient.
Ben, moi, je pense que tant qu'il n'y aura pas eu cette connexion avec le public français, effectivement, cette espèce de une sorte de saga, voilà, on a envie de suivre Caroline Garcia à chaque tournoi. Désormais, elle sera attendue plus que toutes les autres, effectivement. Elle a regagné le droit d'être la joueuse du tennis français qu'on regarde effectivement avec beaucoup plus d'attention et beaucoup plus d'attente que les autres. Mais elle n'a pas encore imprimé, sa trace dans la grande histoire du tennis français. Christophe le rappelait. Elles sont pas si nombreuses les joueuses dans la grande histoire.
La réponse, Stéphane Moore.
Parce qu'elles sont pas si nombreuses, ce qu'elle a fait Caro Garcia, c'est un énorme exploit. Vous me dites,
c'est un énorme
exploit.
Il ne
s'agit pas de dévaluer sa performance.
Non.
Peut-être que vous dites, oui, Mario Stéphane, c'est votre sport, vous êtes pas objectif. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Journal d'équipe, grande une, Caroline Garcia. Ça, pour vous, c'est pas.
Ah, ben voilà. L'équipe a fait sa une dessus, donc.
Ça veut dire que médiatiquement, aujourd'hui, Caroline Garcia, elle est rentrée dans la tête du peuple français et pas uniquement des spécialistes du tennis. Le Masters, moi, je veux bien les Grand Chelem, c'est compliqué parce que ça dure 15 jours. Mais les premiers tours de Grand Chelem, quand t'es tête de série numéro 3, numéro 4, en général, les premiers tours, ça se passe bien. Au Masters.
Plus maintenant,
il n'y a pas eu de débordement sur les champs, pour la victoire de Caro Garcia. La fête s'est déroulée dans la bonne humeur et vraiment.
Il y avait des débordements sur les champs.
Bah, je sais pas, à toi de me le dire.
Ah bah non, il avait pas. Ah bah,
l'histoire du sport, l'histoire du sport français, c'est écrit.
Il faut qu'il y ait des débordements sur les champs.
Je sais pas, mais pour
rentrer.
Juste, on peut retourner ton argument, Stéphane, parce que pour rentrer dans l'histoire du tennis français, il faut faire la une de l'équipe, quoi.
Oui, voilà, ça suffit. Ah bah,
putain, moi, Cléopâtre Darleux, elle a fait la une de l'équipe, elle est pas rentrée dans l'histoire du.
Attendez, mais vous êtes complètement fou. Vous vous rendez pas compte ce que c'est que le niveau d'un Masters. Là, on parle que du Masters, mais on peut parler aussi de la saison de Caroline Garcia. Caroline Garcia, elle a gagné 4 tournois sur 4 surfaces différentes. Elle est aujourd'hui 4e mondiale. Elle a tapé Iga Świątek, aujourd'hui la plus grande star du tennis féminin chez elle en Pologne. Il vous faut quoi de plus? Oui, elle a fait une demi-finale de l'US Open et là aussi, on a
dans 30 ans, la victoire de Caroline Garcia sur Świątek en Pologne, franchement, on s'en souviendra encore. Ce sera inscrit sur, au fronton de tous les.
Une Française qui bat une numéro mondiale, ça arrive tous les jours.
C'est pas la première fois.
Quand il y a un Français qui bat une numéro mondiale, mais c'est tout un pataquès.
C'est pas la première fois qu'une Française bat une numéro 1 mondiale. Elles sont pas toutes rentrées dans l'histoire du tennis français. Ça dépend de ce que t'entends.
Oui, ce sera toujours ça, plus ça.
Ce sera toujours marqué dans les livres d'archives du sport. Effectivement, tu regardes la date.
La saison de tennis, c'est 4 tournois. En fait, mais pourquoi?
Non, c'est pas la saison de tennis.
Non, on parle d'histoire
avec un grand H. Tu sais, ça veut dire avec un grand H l'histoire. Tu peux pas mettre tout le monde dans la.
Pas tout le monde. Il y a 4 joueuses, Mario Bartoli, Amélie Mauresmo, Marie Pierce dans l'Europen et Caroline Garcia. Et chez les mecs, il y a Yannick Noah.
Le truc, c'est que pour toi, Caroline Garcia.
Pour toi, elle est légale de Marion.
Bah, pourquoi pas?
D'accord.
Ok. Marion Bartoli, pour toi, elle est entrée dans l'histoire également. Viens dans ce bras de fer.
Mais pour moi, elle est totalement rentrée dans l'histoire parce qu'effectivement, et comme l'a dit Stéphane et comme tu viens de rappeler les noms, on est combien? On est 4. Tu vois, même la finale de Wimbledon de Nathalie Tauziat en 98, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui s'en rappellent ou qui même connaissent cette finale de Grand Chelem. Donc, quand tu, effectivement, t'as pas une nation comme les États-Unis où c'est que des champions qui gagnent 10, 15 tournois du Grand Chelem, quand t'as une joueuse qui arrive à gagner un master où c'est un tournoi extrêmement compliqué, mais là où je suis d'accord avec vous, Simon et Christophe, c'est que c'est vrai que t'as le droit à l'erreur, là où en Grand Chelem t'as pas le droit à l'erreur, d'où la raison pour laquelle, effectivement, tu peux pas mettre forcément un master au même niveau qu'un tournoi du Grand Chelem. Mais pour moi, en gagnant ce master, oui, elles rentrent dans l'histoire du tennis français parce elles ont été combien à gagner? 2. Donc à partir du moment où tu es un nombre aussi faible, bien sûr que tu rentres dans l'histoire. Tout simplement par le peu de joueuses qui sont arrivées à le faire. Il y a qu'Amélie et Caro qui sont arrivées à le faire. Donc maintenant qu'on lui souhaite, bien sûr, quoi, l'étape ultime, c'est d'aller chercher un grand chelem, ça c'est évident. Mais même si malheureusement pour elle, et c'est vraiment pas ce que je lui souhaite, ça reste un peu encore trop dur sur 7 matchs consécutifs, en gagnant le Masters comme elle l'a fait, surtout avec la finale en plus qu'elle a joué, où elle a joué à un niveau absolument monstrueux. Bien sûr qu'elle rentre dans l'histoire du tennis français, et bien sûr qu'on s'en souviendra, et bien sûr que les gamines qui aujourd'hui ont 10 ou 12 ans dans une école de tennis, dans un petit club français, elles voient Caroline Garcia comme un exemple et comme une championne et qu'elles ont envie de faire pareil. Donc moi, rien que pour tout cela, bien sûr qu'elle rentre dans l'histoire du tennis français. Je veux dire, à partir du moment où on a quand même depuis la victoire de Yannick, donc 40 ans, quasiment 40 ans, on a été Yannick, Marie, Amélie, moi et Caro Garcia. Voilà les 5 noms que je peux dire. Je peux dire que les joueuses sont rentrées dans l'histoire du tennis français. Même Joe n'a pas gagné le Masters. Même Gaëlle n'a pas gagné le Masters. Ils ont été tellement rares, les noms. Les noms à être capables d'aller chercher des aussi grands événements que oui, je la place totalement dans l'histoire du tennis. Mais là où je suis d'accord avec toi, Christophe et Simon, c'est vrai que tu peux dire qu'un grand chelem, c'est plus dur à aller chercher parce que pendant 15 jours, t'as plus de temps de cogiter, que la pression, elle monte plus. Que 15 jours à gérer, c'est beaucoup plus difficile qu'une semaine. Que quand t'as pas le droit à l'erreur et qu'il faut aller chercher 7 matchs, c'est plus difficile que de perdre en poule et d'être quand même qualifié. Oui, bien sûr, là-dessus, il y a personne qui t'opposera un argument. C'est évident. Ça coule de source. Mais d'être arrivé à le faire, elles ont été que 2 à être arrivées à le faire. Oui, bien sûr qu'elles rentrent dans l'histoire du tennis français.
Ok. Il reste encore quelques minutes dans ce bras de fer. Ce n'est pas terminé, mais on fait un petit point d'étape pour savoir où nous en sommes. Nous sommes partis à 71. Pour oui, elle fait partie de l'histoire du tennis français avec cette victoire au Masters, 71% contre 29%. Vous grappillez, Simon Dutin, Christophe Cessieux. On est passé à 70-30. Vous grappillez.
Ça met un point.
Mais peut-être que vos arguments font mouche. En tout cas, vous avez entendu Marion Bartoli. Marion a cité Yannick Noah, a cité Marie Pierce, Amélie Mauresmo, elle-même, c'est toujours bien de se citer, et Caroline Garcia. Moi, j'ai juste.
Mais j'ai quand même pas oublié que j'ai gagné. Quoi. Tu veux pas me l'enlever.
J'ai juste un problème avec cette liste. C'est que les autres, ils ont gagné un tournoi du Grand Chelem. J'imagine que c'est ça qui vous fait tiquer, Christophe Cessieux.
Non, mais moi, que vous mettiez le Masters dans le même bain que les 4 tournois mythiques. Ce tournoi qui s'est déroulé au fin fond du Texas.
Mais ça n'a rien à voir. Ça s'est joué dans un lieu.
Remporter Wimbledon sur l'herbe de Wimbledon dans cet endroit. Remporter Roland Garros sur la terre battue parisienne. Je suis désolé, il y a la force du symbole. Et Fort Worth, ils font du rodéo, mais ils connaissent rien au tennis. Je suis désolé, mais l'endroit.
le lieu où se déroule la compétition, c'est aussi important. Mais, ça fait partie.
Même sans parler de victoire en tournoi du Grand Chelem, parce qu'on sait à quel point c'est réservé effectivement à une sorte d'élite. Je ne sais pas s'habituer à la voir dans les derniers carrés, à des altitudes où on n'a pas plus l'habitude de voir évoluer nos joueuses de tennis françaises.
Il y a deux mois.
Elle fait une saison extraordinaire, Stephen. On a eu l'occasion de la saluer plusieurs fois ici. Maintenant, voilà, demi à l'Open d'Australie, demi à Roland, demi à Wimbledon. Au moins, à arriver jusque-là, se battre pour le titre, donner l'impression qu'elle est en course pour le titre. Et encore une fois, on termine, mais c'est vrai que c'est pas faire injure, encore une fois, aux performances de Caroline Garcia, mais on est dans une période de transition au niveau du tennis mondial, où bien que Swiatek, elle ait dominé effectivement les trois quarts de la saison, bon, ça manque d'une patronne, ça manque d'un totem, de la figure à aller chercher, à aller taper, et donc a fortiori d'un quatuor de joueuses qui pourrait dominer le circuit mondial. On a envie de s'habituer à la voir se battre pour tous les plus grands titres.
Le problème de Caro Garcia, c'est que si elle gagne un grand chelem, on parle plus d'histoire du tennis français, on parle de l'histoire du sport français. C'est ça la prochaine étape. Si tu gagnes un grand chelem, elle dépasse le tennis français, Caro Garcia. Pour moi, elle rentre dans l'histoire du sport français en gagnant un tournoi du grand chelem. Là, elle est rentrée dans l'histoire du tennis français. Et okay. Marion a raison de dire que la France a tellement peu gagné qu'aujourd'hui, tu gagnes un master, ça te fait rentrer. Si par exemple Francis Tiafoe, il gagne un grand chelem, est-ce qu'il rentre dans l'histoire du tennis américain? Non, parce que tu as eu les Sampras, les Agassi, les Jim Courier. Il y a aussi l'historique du pays. Il y a aussi l'historique du pays qui est important. Et là, je vous pose une question. Si en février, Caroline Garcia est numéro 1 mondiale, mais qu'elle n'a pas gagné grand chelem. Ça, c'est peanuts aussi. Mais
j'achète, moi. Numéro 1 mondial, c'est quelque chose qui
reste. Elle a 300 points à défendre. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'elle soit peut-être numéro 1 mondial en février.
Répondez à cette question.
Elle ne pourra pas se retrouver à 3 d'avance.
Ça ira avec de grandes performances.
Mais c'est vrai qu'elle a 3000 points à défendre sur la saison. Et Caro Garcia, elle en a 300 jusqu'à Roland-Garros. Donc il y a une
poignée. Oui, mais l'Open d'Australie, c'est que 2000 points. De toute façon, il y a plus que 2000 points d'écart.
Il faut qu'elle gagne l'Australienne. Si elle gagne l'Australienne, elle rentre dans l'histoire. Un numéro 1 mondial en plus. Alors là, oui, d'accord. Là, je tirerai mon chapeau. Oui. Mais oui, mais je suis désolé.
Ok, je reprends la main. Vous avez pu donner vos arguments.
Il faut qu'elle mette un essai aussi contre les Blacks en ouverture de la division.
C'est vrai pour rentrer dans...
Il y a quand même Formule 1 avec Mercedes.
Et qu'elle fasse des Blacks vaseuses comme Stephen, et là, elle sera numéro 1 mondial.
Ok, Caroline Garcia est-elle entrée dans l'histoire du tennis français? On se posait la question. Il y avait une team histoire, oui. Sans aucun doute, Marion Bartoli, Stephen Brun... Vous avez gagné 70% pour vous, mais la team pas encore. Avec Christophe Cessieux et Simon Dutin, on peut dire que vous aussi, vous avez gagné quelque part, parce que vous êtes parti à 71-29, finalement. On clôt les bottes. C'est 70-30.
Ce truc-là, à chaque fois, ça
c'est toujours un point seulement.
C'est marrant parce que tu vas le dire à chaque fois.
Mais oui, bah parce qu'à chaque fois,
Le règlement n'est pas bon.
Faut que tu changes ça.
Oh là là. Il faut ne jamais mettre dans une même émission Christophe Cessieux et Simon Dutin.
Il faut lancer le débat. Enfin, lancer la consultation après le débat.
Tu sais qu'on a déjà eu cette discussion à l'antenne.
Mais tu n'en as tenu aucunement compte. Je te demande à nouveau de changer le règlement.
Est-ce que tu sais ce que je t'avais répondu à l'époque ou tu m'écoutes
non,
pas?
Non, j'écoute pas ce que tu dis.
Voilà. J'avais répondu à l'époque, c'est très bien, sauf qu'en fait, c'est un artifice parce que les gens qui votent nous écoutent pas forcément au même moment. Donc forcément, c'est dissocié.
Tu peux pas les convaincre. Tu peux pas les convaincre s'ils écoutent pas. Désolé.
C'est une production à l'américaine. Ne cherche pas tout à chaque fois, voilà. On vous met en opposition, on vous dit oui, mais toi t'es pas d'accord, oui, mais toi t'as du vent, toi, mais toi t'en as pas. Mais oui, voilà, c'est comme ça qu'on fait une émission.
C'est truqué, quoi, voilà, on ment, bien sûr. On ment.
En tout cas, sachez que la formatrice.
Belle histoire, mon cher Christophe. Merci.
La formatrice de Caroline Garcia a répondu à cette question. Elle s'appelle Muriel Mérol et elle a dit ça montre qu'elle a marqué l'histoire du tennis français grâce à cette victoire. Il lui manque un grand chelem pour asseoir un peu plus cette position. Mais c'est déjà énorme. En gros, elle est un peu d'accord avec tout le monde.
D'accord avec tout le monde.
Bravo. Voilà. 11h24. C'était mieux avant. La séquence magnifique et nostalgique de Christophe Cessieux sur Florence Sarto. Incroyable. À tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h27, de retour dans les grandes gueules du sport, votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci infiniment de votre fidélité ce matin, les jugés. Marion Bartoli, Simon Dutin, Stephen Brun, Christophe Cessieux, dans une dizaine de minutes. C'est à vous de jouer, les auditeurs. Vous composez le 32-16 et vous venez affronter une GG sur un thème du jour. Une fois n'est pas coutume, c'était mieux avant, c'est maintenant, le samedi.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avants français ressortent le grand jeu, Dwyss en tête. Dwyss, c'est le Pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
Il y a 32 ans, Florence Artaud devenait la première femme à remporter la Route du Rhum.
Ce soir de novembre 1990, alors que la nuit vient tout juste de tomber sur la Guadeloupe, il règne une drôle d'activité sur le plan d'eau de Pointe-à-Pitre. Des dizaines de petites lumières, blanches, vertes et rouges, illuminent le plan d'eau. Des plaisanciers, venus en nombre, accueillir une jeune femme et son bateau qui s'apprête à franchir en vainqueur la ligne d'arrivée de la Route du Rhum.
La ligne est coupée.
Ça y est, la ligne est coupée. Les contrôleurs montent à bord. La quatrième Route du Rhum est gagnée par Florence Artaud.
L'ambiance est à la fête dans le port guadeloupéen et pour cause. C'est la première fois dans la glorieuse histoire de la course au large qu'une femme parvient à battre tous les hommes pour emporter une course transatlantique. Une régate de 14 jours qu'Artaud a pourtant bien failli ne jamais terminer.
Bah, je suis contente évidemment, j'en reviens pas, je crois que je réalise pas encore vraiment. Surtout que j'ai pas eu de nouvelles de la course pendant depuis le 10, ma BLU est tombée en panne. Après j'ai été vachement malade, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai failli déclencher ma balise de détresse, mais je me suis dit ça changera rien même si je la déclenche. Si je m'arrête pas de saigner, de toute façon on me sauvera pas à temps. Alors j'ai mis à la cape, je me suis allongée. Et puis après j'ai été obligée de barrer 20h sur 24 depuis une semaine quoi. Mais bon bah ça a marché donc c'est le principal.
Radio en panne, pilote automatique en rade et navigatrice entamée par une fausse couche qui provoque une hémorragie gravissime qui la laisse aux portes de la mort et à deux doigts de l'abandon. Mais cette fois-là, Florence Artaud parvient à déjouer les plans de la grande faucheuse avec lequel elle l'aura flirté tout au long de sa vie, la tenant en respect avant que celle-ci ne finisse par la rattraper un jour de mars 2015. Son premier accident, la jeune fille de bonne famille, déjà rebelle, le connaît en 1974. Elle n'a alors que 17 ans, prépare son bac et aime déjà faire la fête. Mais au retour d'une virée, le conducteur, sans permis, de la voiture dans laquelle elle a pris place, perd le contrôle du véhicule. La voiture part en tonneau, les dégâts sont lourds. Florence, défigurée, victime de deux fractures du crâne avec hématome, va mettre 2 ans à récupérer corps et esprit. 2 longues années pour réapprendre à parler et à penser. 24 mois dont elle va pourtant tirer profit.
Ça a été ma chance finalement cet accident. Ça a été une période de 2 ans de convalescence où on m'a passé tous mes caprices parce qu'il fallait surtout pas me contredire, sinon ouais. Je risquais de rester un peu coincé. Et en fait, j'avais le droit de rien faire, ni au niveau des études parce que j'étais pas très vive intellectuellement, et ni au niveau sportif, à part du bateau.
Et le bateau, Florence adore ça, et ce depuis qu'elle est toute petite. Formée à la mer en Méditerranée par son père et ses frères, elle écoute, captivée, des nuits durant, les récits des amis du paternel, les tabarlis, colas et autres moitessiers. Une passion telle qu'elle en décide même de faire son métier. Pour cela, elle est prête à tout, Flo, même à séduire un marin pour traverser l'Atlantique sur son voilier. En 1978, après quelques mois de formation et munie d'un petit monocoque qu'elle s'est payé en cassant sa tirelire, la voici même au départ de la première édition de la Route du Rhum qui mène marins et voiliers de Saint-Malo jusqu'à Pointe-à-Pitre. La jeune femme est âgée d'à peine 21 ans. Son joli minois attire déjà les médias.
J'aime le bateau, j'aime naviguer, j'ai envie de naviguer seul et en course et en solitaire en plus, c'est très intéressant. C'est un peu un test que je fais là, c'est une expérience de voir quelles sont mes limites, jusqu'où je peux aller.
Vous pensez mettre combien de temps?
Entre 25 et 30 jours.
Une course difficile au cours de laquelle Alain Colas disparaît en mer. Quant à Florence, elle s'accroche, conseillée à distance par sa maman.
Du bouton hydrophile autour de ton pouce et que tu le changes chaque fois qu'il sera humide. Il faut que tu te mettes ton pouce le plus souvent possible. Parce que ça, c'est très important. Tu sais, Florence, tu peux avoir de la gangrène dans ce pouce, hein?
Des conseils qui, associés à une détermination sans faille, lui permettent d'achever la course à la 11e place, ce qui lui vaut les honneurs du 20h de PPDA.
Ils sont 13 à avoir déjà relié Pointe-à-Pitre. Parmi eux, la première femme, Florence Artaud, arrivée 11e, 4 jours seulement après les vainqueurs de la course. C'est une très belle performance.
C'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux.
Vous pensiez vraiment pouvoir arriver avant?
Oui, j'aurais dû arriver avant. J'aurais dû arriver avant si j'avais pas eu de casse. Au début, j'étais vachement mieux placée. J'étais dans les 4-5e. Enfin, disons que de toute façon, je suis contente d'être arrivée. Ça s'est pas trop mal passé.
La petite fiancée de l'Atlantique est née et les sponsors vont se l'arracher. Mais les lendemains ne seront pas aussi beaux que prévu. Deux ans plus tard, au départ de la Transat anglaise, elle casse le mât de son beau bateau tout neuf avant même de franchir la ligne de départ. Adieu mât, voiles et sponsors, Biotherme qui l'accompagne la laisse au port. Privée d'embarcation et contrainte de rembourser, Florence va compenser son désarroi en intégrant une bande de jeunes loups de mer avec lesquels elle va enchaîner fêtes, nuits alcoolisées et amour d'un soir. L'écrivain Yann Kefelec, qui a consacré un récit à la vie de la navigatrice, se souvient de cette époque turbulente.
C'est là aussi où elle a appris, je pense, véritablement à picoler. C'est-à-dire à picoler comme on sait picoler entre marins, c'est-à-dire on picole la nuit, on picole dans la nuit blanche, et l'heure n'existe pas, et on y va jusqu'à ce qu'on tombe, jusqu'à ce qu'on se batte.
Sa réputation est faite et la presse ne l'épargne pas, disant d'elle qu'elle a un fiancé dans chaque port. Une notoriété négative qui contrarie son père, l'éditeur Jacques Artaud, qui l'aide pourtant à se remettre à la mer en lui présentant Christian Garrel, un promoteur immobilier qui va se lancer dans l'aventure avec Florence.
J'ai une fille qui fait de la voile et qui cherche des sponsors, et donc j'ai accepté de la voir. Elle a pris le train dans la nuit et le lendemain matin, je voyais arriver cette petite crevette là dans mon bureau. Elle s'est assise, elle a dit voilà, mon père m'a demandé de venir vous voir. J'ai dit écoutez, moi j'ai qu'une question à vous poser. Combien ? Elle m'a dit ben écoutez, je crois que c'est 30 millions. On parle en francs, on parle en euros. J'ai réfléchi 30 secondes, puis j'ai dit écoutez, c'est d'accord. Elle était complètement estomaquée parce qu'elle n'avait pas eu le temps de dérouler ses arguments.
Une coquette somme qui lui permet de mettre en chantier un trimaran de dernière génération baptisé Pierre Ier, avec lequel elle peut désormais rivaliser avec les meilleurs marins de l'époque. Et avant de triompher sur le Rhum, Artaud s'offre un premier succès d'estime en battant le record de la traversée de l'Atlantique.
16h cet après-midi, Florence Artaud peut enfin laisser éclater sa joie.
Ça fait quand même pas mal de temps maintenant que je vis sur l'eau. Depuis 76, où j'ai arrêté mes études de médecine, je ne fais que du bateau, je ne fais que naviguer tout le temps. Donc je me considère pas comme une femme qui fait du bateau, mais comme un marin.
Trois mois plus tard, elle triomphe sur la route du Rhum, un succès qui fait d'elle une icône du sport français et qui lui vaut les paillettes et le plateau de Michel Drucker, où elle vient chanter en duo avec son amoureux de l'époque, le chanteur Pierre Bachelet.
Une star, et quelle star, Florence Artaud. Voici donc Florence Artaud et Pierre Bachelet qui chantent.
Pierre, t'es comme un rocher sur la lande. Tu ne bouges pas, tu te demandes. Les rivières.
Chacun est fait comme il est. Chacun prend feu comme il peut.
Florence Artaud et Pierre Bachelet. Vous allez maintenant naviguer sur un bateau encore plus grand.
Le prochain Pierre Ier sera deux fois comme celui-là, qui fait 18 mètres. Donc le prochain fera environ 35-36 mètres. J'ai envie d'agrandir mon horizon.
Mais l'horizon de Florence va à nouveau se boucher. Crise immobilière oblige, Pierre Ier quitte le navire, laissant Artaud sans ressources. Dès lors, elle ne retrouvera plus jamais de mécène capable de lui faire gagner les plus grandes courses au monde. Qu'à cela ne tienne, après avoir mis au monde une petite Marie, elle ressent à nouveau l'appel du large et s'engage comme coéquipière de Jean Morel ou de Bruno Perron. Une vie de bohème partagée entre courses au large et nuits blanches à terre. Mais les années passent et Florence disparaît petit à petit du jeu. En 2010, incapable de dénicher un sponsor digne de ce nom, elle décide même de ranger définitivement ses voiles de course et part seule en mer à la barre de son petit voilier. Et c'est à bord de l'Argade qu'un soir d'octobre 2011, alors qu'elle navigue au large de la Corse, elle va à nouveau frôler la mort. Animée d'une envie pressante à l'arrière du bateau, elle est déséquilibrée par une vague, tombe à la mer et voit son embarcation sous pilote automatique s'éloigner dans la nuit noire. Par un étonnant concours de circonstances, Florence va une nouvelle fois réchapper à la mort.
J'avais acheté un téléphone deux mois avant, un téléphone étanche, alors que j'en avais jamais. Je l'avais dans ma poche, alors que normalement, j'ai jamais sur moi. Je venais juste de regarder ma position, ce qui m'arrive pas toutes les cinq minutes, donc je savais dire où j'étais. J'avais du réseau, alors que une demi-heure avant, j'en avais pas. Donc, j'ai pu téléphoner. J'ai appelé ma mère qui a déclenché les secours.
Les secours sont prévenus, mais il faut faire vite. Florence, en hypothermie, perd ses forces et commence à couler. Son frère Hubert parvient à la joindre et tente de lui redonner le moral.
J'ai Florence qui me dit, je vois pas d'hélico. J'ai dit, Florence, tiens bon, ils vont arriver. Elle est déjà en train de partir, c'est-à-dire qu'elle est en hypothermie. Je l'entends boire la tasse. Elle me dit, ah, je t'aime, je t'aime. Je dis, non, Florence, résiste. Elle raccroche et là, je suis à mon bureau et devant l'ordinateur et je dis à ma femme, bon, elle va mourir.
Mais quelques minutes plus tard, l'hélicoptère de la sécurité civile la repère grâce à la lampe frontale et parvient à l'hélitreuiller. Une fois encore, le diable n'a pas voulu d'elle.
Bah, on pense un peu à tout, à tous ceux qui ont fini en mer. Moi, j'ai pensé à Tabarly, à tous mes amis qui ont disparu en mer. Et puis, moi, j'étais pas sûr du tout de pouvoir m'en sortir.
Ce soir-là, c'est un hélicoptère qui la sauve, mais 4 ans plus tard, le destin va prendre sa revanche en utilisant un engin du même type. Nous sommes le 9 mars 2015, au fin fond de l'Argentine. Florence participe depuis quelques jours au tournage pour TF1 d'un jeu d'aventure télévisé nommé Dropped. Elle embarque à bord de l'un des deux hélicoptères de la production. À ses côtés, deux autres champions, la nageuse Camille Muffa et le boxeur Alexis Vastine, ainsi que plusieurs membres de la production. Les deux hélicoptères décollent et soudain...
Sur ce document amateur, le choc entre les deux hélicoptères en plein ciel. Les deux appareils sont incontrôlables. Ils tombent. Au sol, des habitants qui assistaient au tournage et des membres de la société de production qui se précipitent. Il est trop tard. Les deux carcasses des hélicoptères sont en feu. Les témoins ne peuvent pas approcher et tenter une opération de secours. À bord, il y avait 10 personnes. Il n'y a aucun rescapé.
La France du sport est en deuil, celle de la voile pourtant habituée aux disparitions tragiques sous le choc. Cette fois-ci, le destin, qui avait toujours été favorable à la petite fiancée de l'Atlantique, a fini par se retourner contre elle. Florence Artaud en a fini de narguer la mort pour rejoindre au paradis des marins ses glorieux aînés et ses copains de virée.
Christophe Cessieux pour cet hommage et cette carrière racontée de Florence Artaud, elle qui, je le disais, il y a 32 ans est devenue la première femme à remporter la Route du Rhum, les GG, Simon Dutin, Marion Bartoli, Stephen Brun. Que retenez-vous de ce C'était mieux avant de Christophe? Quel est le moment qui vous a le plus peut-être interpellé ou plus, je ne sais pas. Simon Dutin.
Voilà, on retient que c'était super, comme chaque semaine, qu'on s'est régalé à se replonger dans ses souvenirs. Moi, j'ai découvert l'existence de la Route du Rhum par la victoire de Florence Artaud. Alors peut-être parce que justement cette victoire était un peu plus mise en avant. J'avais une dizaine d'années. Non, c'est catastrophique de terminer comme ça, parce que c'est un destin cabossé, comme on recèle beaucoup le monde de la voile. Et effectivement, parmi les marins d'eau douce, hein, y a des gens qui ont des trajectoires. La mer, ça permet de guérir plein de choses, ou en tout cas d'échapper à plein de choses qui sur terre nous rendent pas forcément très heureux. Et bon, Florence Artaud, c'est un peu le paroxysme un petit peu de ce destin un peu brisé, de ce mal qu'elle confessait elle-même avoir pour gérer sa vie à terre. Et franchement, terminé par un accident d'hélicoptère encore une fois, on en revient toujours à ça, quand t'as un tout petit peu navigué dans des conditions un tout petit peu difficiles, ce que se mettent ces skippers quand ils traversent l'Atlantique, qui passent par des moments de terreur, de peur, mais ouais, non, de terreur, finir par un accident d'hélico dans une émission un peu claquée sur TF1, c'est quand même un peu con.
Ouais, et je me souvenais pas de c'était en 2010, c'est ça, de son accident.
2011, ah ouais, là c'était
terrible. De bateau, et c'est ça qui m'a le plus saisi.
Ouais, mais le concours de circonstances, le fait qu'elle ait son téléphone, elle s'en rend pas compte immédiatement en plus, parce que le téléphone est dans sa veste de car, et on l'enlève petit à petit ses bottes parce qu'elle commence à couler. Elle a pas de gilet de sauvetage, et au bout d'un moment, elle va pour enlever sa veste de car, et là elle se rend compte qu'elle a son téléphone dans la poche. Et là, le miracle. Mais le problème, c'est qu'elle est en train de couler. Donc,
et
elle essaye de faire son code PIN. Elle n'y arrive pas. Et elle appuie sur M et ça appelle sa maman qui dort pas encore. C'est un miracle. Là, c'est vraiment un miracle.
Cette histoire est dingue. Être retrouvée en plein milieu parce qu'elle a une frontale par un hélicoptère, parler à son frère, lui dire quasiment
ses derniers mots.
Ouais, ses derniers mots. Donc, c'est une vie tragique. Et comme le dit Simon, elle a échappé à la mort dans des circonstances incroyable, terminé sur une émission de télé-réalité. Moi, c'est le destin est tragique.
Marion?
Ouais, la même chose, surtout quand tu racontes, Christophe, la partie effectivement de drop. Moi, j'ai forcément une espèce de chair de poule qui me traverse le corps parce que j'aurais dû faire cette émission. J'aurais dû y participer par un concours de circonstances. J'ai finalement refusé.
Ah ouais.
Et
ouais. Ah ouais, je savais voilà. pas ça.
Et c'est Camille Muffa qui avait pris ma place. Oh donc à chaque fois que tu parles de ça, j'ai des frissons. Et pour la partie du Cap Corse, effectivement, le 29 octobre 2011, je me rappelle de ça parce que voilà, j'avais pu suivre effectivement aux infos et ils avaient raconté ce récit absolument incroyable. Donc elle s'en sort dans des conditions où tu te dis mais c'est impossible qu'elle s'en sorte. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est ce destin tragique sur la fin, quoi. Mais bon, comme tu l'as dit aussi dans ta chronique, elle a marqué totalement l'histoire du sport français.
Elle est rentrée dans l'histoire du sport français.
Mais cette fin tragique, ouais, ça me touche énormément. Et tu l'as racontée avec beaucoup de justesse, comme d'habitude. Et ça m'a forcément touchée.
Tous les 7 émus avant à retrouver en podcast.
T'as dit qui fait les bandes son, c'est toi ou c'est
moi?
Bravo.
Mais bien sûr,
les bandes son, elles sont fabuleuses.
La voix,
mais la musique, elle est fabuleuse.
Auteur, réalisateur, concepteur.
Les forbans, les trucs comme ça. Elle met un footbeat et finalement, il a des bons goûts.
Rod Stewart, hein, quand même, on a noté.
Sailing,
ouais. Immense.
Bravo, et tous les 7 émus avant sont des bonbons. Ce sont des
Bravo,
bonbons
Christophe.
Du sport français.
Merci,
et vous pouvez aller les voir et les télécharger sur notre application en podcast. N'hésitez pas, vous pouvez tous les faire. Vous allez à chaque fois adorer ces moments d'histoire. 11h44, on se retrouve dans quelques instants. Pour vous, votre moment, le 32-16, vous n'êtes pas d'accord avec une GG, c'est la bagarre. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h49, de retour dans les grandes gueules du sport à partir de 11h. Les paris RMC pour vous conseiller au mieux sur vos paris du samedi. J'ai dit quoi?
De 11h.
À partir de midi, oui, bien sûr, pardonne-moi, à partir de midi, les paris RMC autour de cette 15e journée de Ligue 1, la dernière journée, le dernier week-end avant la Coupe du Monde. Donc c'est à partir de midi, mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC,
les grandes gueules du sport et vous.
En revanche, c'est la dernière fois que tu me reprends, c'est bon, d'accord.
j'ai compris à ton regard,
non, pas du tout, j'essaie de deviner ce que j'avais pu dire comme sottise. Donc merci beaucoup, Simon. Le 32-16, et vous venez affronter une GG. Malcolm nous appelle, bonjour Malcolm.
Bonjour, comment ça va les GG?
Très bien, toi aussi, tout va bien?
Moi, tout va bien, même s'il y en a deux qui m'ont un peu sorti de mes gonds.
Alors,
Simon et moi, non?
Tu veux t'attaquer à qui?
Non, Stephen et Mario.
Ah, génial.
Pour quelle raison?
Pour l'équipe de France, où je veux bien qu'on me la survende, mais il faut quand même se calmer. C'est-à-dire quand même, quand ça commence, alors déjà pour commencer pour Stéphane, je veux bien qu'ils me disent Rabiot est un grand joueur parce qu'il a joué des matchs des champions. Maintenant, tu me dises quand est-ce qu'il a fait des grands matchs des champions. Et je veux qu'on ne remonte pas à chaque fois au PSG, à Barça,
c'est un match des champions, ça, non, PSG,
oui,
Barça.
Mais il y a 4-5 ans. Il y a déjà 4-5 ans, je suis désolé.
Non, mais je te disais, match des champions sur la gestion des grands événements. Adrien Rabiot, il va pas avoir la pression d'être titulaire à la Coupe du Monde. Il était à l'Euro. Pardon ?
À l'Euro, on n'était pas bon.
Alors, on n'était pas bon, mais je te parle de la pression et de la gestion d'un grand événement. Adrien Rabiot, il ne va pas découvrir le maillot de l'équipe de France sur une Coupe du Monde.
Notre débat, c'est de savoir si cette équipe de France vous faisait rêver. Pour toi, oui. Pour Marion aussi, visiblement, pas pour toi, Malcolm.
Ah non, moi, elle me fait flipper. Elle me fait flipper. Alors, autant l'attaque, oui, c'est vrai, on a une très bonne attaque, ça, personne ne peut le nier. Le milieu, je suis désolé. Alors, certains ont fait des matchs des champions, mais ils n'ont pas de grosses références, à part même Tchouaméni, qui est encore assez jeune dans sa relation avec le Real. Qui est pourtant un joueur que j'apprécie énormément. Quand on parle du milieu, Fofana, Tchouaméni, Monaco, qui a duré 2 ans, alors c'était un bon milieu, hein, c'est les deux, ça compose un bon milieu, mais alors à côté de ça, ça n'a roulé sur rien du tout, ça n'a jamais gagné aucun titre. En Europe, c'était pas fou non plus. Après ça, la défense, moi, passer à chaque fois à 4 derrière, ça a marché en 2018, ça n'a pas marché en 2021, on est passé après à 3, où c'était encore plus flippant, mais le béton, ça peut marcher une fois, je ne vois pas marcher deux fois. Et sachant que, contrairement à il y a 4 ans, Kanté, c'est un joueur qui avait déjà prouvé. Il avait été champion avec Leicester en première ligue. Et à Chelsea, ça se passait très bien. Pogba est un joueur qui avait déjà bien prouvé et qui était notre créatif. Là, au milieu, on n'a personne pour créer, on a tout le monde pour bétonner. Alors, peut-être ça peut marcher parce que d'autres équipes en face aussi ont des blessés. Mais moi, par exemple, si on compare avec le Brésil, moi, je suis désolé, hein, le milieu du Brésil nous bouffe. Hein. Casemiro, Guimarães, ça bouffe tous nos milieux actuellement.
Ok, donc pourtant, en tout cas, Malcolm, la question, est-ce que cette équipe de France vous fait rêver? Toi, c'est clair, c'est non.
Ouais, il joue à Lyon, hein, il y a 6 mois quand même.
Ouais, et Casemiro, on peut dire que ce soit non plus.
Il a quand même.
Guimaraes, c'est un bon joueur.
Mais non, mais Casemiro, il a une carrière qui
pas prouve. Guimaraes, on va pas nous survendre. Guimaraes, quand même, fantastique joueur.
Guimaraes, titulaire du 3ème Premier League, et il joue très bien en Premier League.
J'ai pas dit le contraire, mais attends, ne fais pas ça. Guimaraes, on va trembler parce que le Brésil a Guimaraes dans son équipe. Voilà, c'est ce que je veux dire.
Non, non, je dis pas ça, mais qu'on ne vende pas ça en mode c'est une grande équipe de France.
D'accord, mais est-ce que tu t'es mis dans la peau, par exemple, des joueurs du Brésil quand t'es à l'équipe de France? Les mecs, ils disent, ah, Tchouaméni, oh, Real, il est impressionnant, le gamin, il vient d'arriver, il a été 15 fois titulaire, oh, c'est quand même quelqu'un, un monsieur, oh, Benzema, Mbappé, bon, on les connaît, c'est monstrueux, Antoine Griezmann, à l'Atlético, depuis qu'il a réglé son imbroglio de contrat avec le Barça, c'est quand même solide. Là, sur le banc, ils ont Ousmane Dembélé, ils ont Kingsley Coman.
C'est clair.
Je peux dire que les autres, ils bégayent aussi quand ils voient l'équipe de France.
Mais
pourquoi nous, Français, on devrait pas s'extasier et être contents des joueurs qu'on a dans l'équipe?
Stéphane, justement, à chaque fois, tu me reviens sur la même chose, c'est l'attaque.
Mais tu vas bétonner à l'arrière, tu vas donner des ballons devant et t'as demandé à Mbappé, Benzema de faire la différence.
À chaque fois, vous me parlez de l'attaque.
Nos défenseurs, ils jouent dans les plus grands clubs d'Europe.
On va parler de la défense aussi, ouais.
Nos défenseurs, ils jouent dans les plus grands clubs d'Europe.
Non, mais là où Malcolm soulève un point, effectivement, qui, bah, c'est souvent là que ça se joue, effectivement, au milieu de terrain. On va voir, et c'est une des grosses attentes, comment ça se passe au milieu de terrain. Mais,
t'as le droit d'attendre de Tchouaméni, de Rabiot, qui te sortent une belle compétition.
On n'est pas à l'abri, en effet.
Ok. Et en tout cas, vous avez répondu. Pour vous, cette équipe de France vous fait rêver avec cette liste de Didier Deschamps, les 25 noms.
Alors, on a l'impression que les mecs, ils vont s'extasier sur l'Uruguay, parce qu'il y a Luis Suarez et Edinson Cavani. D'accord.
Il y a Darwin.
Regardons ce qu'on a, quand même.
Ok, très bien. Lionel nous a également. Merci beaucoup Malcolm, très bonne grande gueule et très bonne séquence et tu t'es bien défendu.
Très bon Malcolm.
Lionel nous appelle au 32-16. Bonjour Lionel.
Salut équipe.
Bonjour Lionel.
Merci d'être avec nous Lionel. Tu veux t'attaquer à qui?
Alors m'attaquer c'est un grand mot. Je vais m'adresser à Stephen et à Marion. En fait, c'est sur le thème de Caroline Garcia.
Pour vous, elle était rentrée dans l'histoire du tennis français avec sa victoire au Masters, donc j'imagine que pour toi, pas trop.
Marion, ça, Lionel.
En fait, oui, largement. C'est ça que c'est le paradoxe, c'est que largement elle rentre dans l'histoire du tennis français pour la simple et bonne raison, et je vais soulever indirectement un éternel débat. Si c'était le même équivalent chez les hommes, ce serait moins fort qu'un grand chelem. C'est les femmes, c'est l'équivalent, pour la simple et bonne raison que les formats de match sont les mêmes. C'est-à-dire qu'en simple, chez les femmes, elles gagnent tous leurs matchs en 2-7. Comme dit Marion, il y a plus de tours en grand chelem, sauf que jusqu'en 8e de finale, ils ne jouent pas de tête de série, donc ils jouent les 100e mondiaux. Alors qu'en 8e, en
troisième tour,
c'est déjà
troisième tour sur une tête de série.
Mais pourquoi tu veux t'en prendre à Marion et à Stephen si t'es d'accord avec eux?
En fait, c'est pour soulever le paradoxe, c'est que oui, elle rentre dans le tennis féminin largement parce qu'elle a mis tout le monde d'accord sur le domaine. Mais chez les hommes, ce serait pas pareil. Donc c'est l'éternel débat des masters.
Tu sais pourquoi Laurent, c'est Laurent son prénom?
C'est Lionel.
Pour moi, c'est une bêtise que tu dis. Parce que dans le tennis masculin, si t'avais un Français qui gagne le Masters, ça veut dire que déjà il a fait une saison fantastique parce qu'il est dans les 8 premiers joueurs mondiaux. Ça veut dire que 8 joueurs premiers mondiaux, peut-être que t'as gagné des 500 et des 1000, mais t'as quand même performé en grand chelem. Donc ça veut dire que c'est une performance monumentale d'être top 8 à l'ATP et de jouer le Masters. Et pourquoi Rafael Nadal n'a jamais gagné le Masters alors, Lionel?
On n'a pas.
C'est pas si important que ça.
On n'entend plus Lionel.
Tu m'entends?
Oui.
Ah, je suis là moi.
Pourquoi Nadal n'a jamais gagné le Masters si c'est en 2007?
En quelle année Clément et Grosjean font les Masters?
Le 2000.
Ben voilà, tu t'en rappelles pas. Tu t'en rappelles pas parce que par contre, si je te demande en quelle année ils ont fait finale en Australie, peut-être tu t'en rappelleras.
Rapidement, Lionel, vas-y.
Le format veut que chez les hommes, ça a plus de valeur même de gagner en Coupe Davis, parce que le format s'y prête et que ça a plus de... Bon, en plus, il est populaire, sauf maintenant. Alors que chez les Masters 1000 des femmes, c'est exactement le même format. Donc, gagner un Masters chez les filles, c'est comme gagner un Grand Chelem, parce que c'est aussi compliqué, aussi dur, voire beaucoup plus.
Ok. Donc... Parfait, merci beaucoup Lionel. On est obligé de couper parce que il faut payer le salaire de Christophe Cessieux, Stephen Brun, Marion Bartoli réunis. Si bon du temps, je te mets pas dans la liste.
Non, je te coûte pas très cher.
On est un petit peu même combat.
Pourquoi Stephen Brun, Marion Bartoli dans la liste?
Il faut payer votre salaire, donc j'ai été obligé de couper Lionel, notre auditeur. Merci Lionel d'avoir été avec nous. Merci beaucoup les GG. Christophe Sechon ne sera pas là demain.
Non, demain matin, je vais aller à la messe tranquille demain.
Mais il y a France Afrique du Sud ce soir.
Exactement.
Autour
ce soir.
De Christophe
Sechon. Tu vas quand même le commenter, vu que c'est pas un match important.
J'ai pas dit que c'était pas un match important. Tu ne comprends rien ce que je dis. Tu ne comprends rien.
Ne rentre pas dans le jeu, c'est la fin de cette émission. Merci, chers auditeurs. Merci d'avoir été avec nous. Je remercie également Pierre Amiche à la production, Alban Azaïs à la réalisation et Joe Biden à la momification. Je vous embrasse et on se retrouve tout de suite pour les Paris RMC. À tout de suite.